Chapitre 36. Mon éclat de bois tout fin, méticuleusement épluché pour qu'il puisse s'enfoncer dans la rainure de la porte, se brise à la seconde où j'essaye de m'en servir pour repousser le pêne. Je m'assois sur mes talons dans le noir, le morceau dans la main. Je pourrais faire une nouvelle tentative, mais quel intérêt? Le morceau de pain est mince et tendre. La porte est solide et lourde. Pas moyen de forcer l'une avec l'autre. Derrière moi, la fille gémit. J'entends que le son vient du fond de la pièce, à gauche. « Oui, je sais », dis-je à voix haute pour encourager le contact entre nous. La communication verbale est d'autant plus importante que je ne la vois pas. Comme moi, elle a maintenant les mains et les bras libres. Dieu sait ce qu'elle va me faire. Me sauter dessus par derrière? Me prendre à la gorge? Qu'elle soit une victime ne signifie pas qu'elle soit innocente. J'en sais quelque chose. Les victimes font ce qu'elles ont à faire pour survivre. « Ta gueule, Samuel !» grommelai-je à haute voix. Du coup, la fille gémit de nouveau. Je me lève, j'étire mes bras, je tourne mes poignets et ça me fait du bien. Et je réfléchis à ce que je peux faire. Aucun bruit à l'extérieur, aucune ombre qui bougeait devant la fenêtre d'observation. La fille et moi n'avons plus nos chaînes depuis au moins 30 minutes. Et jusque-là, aucune réaction du public. Est-ce que le grand méchant kidnappeur ne s'est pas encore aperçu que nous sommes libres? Ou bien est-ce qu'il s'en moque? Comment a-t-il apporté des cercueils sans même que je me réveille? Comment m'a-t-il enlevé chez moi sans même que je résiste? Arrête ça, me dis-je. Ce n'est pas le moment d'essayer de comprendre le passé, il faut aller de l'avant. Qui est dehors? Demandai-je à la fille en arpentant notre prison, à la recherche de n'importe quel objet susceptible de faire un meilleur levier que des fragments de bois tendre. Elle reste muette. « Tu connaissais Devon ?» lui demandai-je. Quelques secondes me sont nécessaires pour me souvenir de son nom de famille qui m'a été donné il y a une éternité, quand j'étais assise dans la voiture de police. « Devon Golding, un barman. » Des pectoraux de compétition, il travaillait au tonique, tu le connaissais? Plus de gémissements. Une brève inspiration. Elle se rappelle, j'en jurerai. Je l'ai tué, lui dis-je comme pour faire la conversation. Je lui ai jeté de l'antigel et du permanganate de potassium sur la tête et les épaules. Feu chimique, il a brûlé vif. Un autre hoquet de stupeur. Ça te fait plaisir? De savoir qu'il a souffert, qu'il est mort, ou bien est-ce qu'il te manque? Je n'avais pas l'intention de donner à ma voix des accents compréhensifs, voire nostalgiques, mais on ne contrôle pas tout. L'homme est mort? Sa voix est rauque, mais au moins elle se décide enfin à me parler. Ce n'est pas moi qui t'ai enlevé, lui dis-je. Je n'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Comment peux-tu ne pas savoir ce qui t'est arrivé? Elle ne répond pas. J'aurais dû m'en tenir à la voix compréhensive. La compassion n'est pas mon fort. Le tonique, en centre-ville, ça te dit quelque chose? Je suis arrivée au seau en plastique. Je le soulève, je le soupèse. Ça aurait été super d'avoir une anse en métal. Même une anse en plastique aurait pu faire l'affaire. Mais non, pas de chance. Rien qui puisse faire levier. Et si je lançais le seau dans la vitre d'observation pour essayer de la briser? Je le fais tourner entre mes mains, sceptique. Il est trop léger. Le miroir s'en teint certainement solide. Mais je le garde quand même. Si la fille se jette sur moi, je pourrais toujours lui enfiler un coup sur la tête, façon grosse farce. Le tonique, murmure la fille, comme si elle avait déjà entendu ce nom dans une autre vie. Des murs noirs, des lumières fluo, des musiciens d'enfer, commençais-je avant de m'interrompre. Des murs noirs. Spontanément, je pars vers la droite, jusqu'à percuter un des murs, justement. Le sol, les murs, le plafond et les fenêtres, tout a été peint en noir. Est-ce que ça peut être une coïncidence? Devon Golding m'a prise par surprise vendredi soir, en surgissant d'un seul coup et en assommant ma première cible. Et pourtant, quand j'ai repris connaissance dans son garage, il m'a paru arrogant et inexpérimenté. Un prédateur, c'est certain. Mais un prédateur de ce niveau? Un prédateur qui aurait une chambre noire, un penchant pour les nuisettes en soie et les entraves compliquées? Sans parler du fait que je l'ai supprimé et que je me suis quand même retrouvée là. Et pourtant, une boîte de nuit connue pour son bar entièrement noir et une chambre repeinte en noir. Est-ce que ça peut vraiment être un hasard? Je me demande si d'autres choses m'ont échappé vendredi soir. Plusieurs des amis de Stacy m'avaient dit qu'il fréquentait le tonic aussi bien que le beurre cheese. Par ailleurs, étant donné la proximité des deux établissements, les employés des deux boîtes se connaissaient, allaient prendre des verres dans l'une ou l'autre à la fin de leur service. Dans mon esprit, ça valait le coup de vérifier. Après tout, l'innocence des employés du beurre cheese avait été établie, mais quid de ceux du tonic dans la même rue? Les chances étaient minces, mais apparemment j'avais visé plus juste que je ne le pensais. « Le beurre cheese ?» dis-je à voix haute, juste pour voir quelle réaction je vais obtenir de la part de ma compagne de cellule. Elle hoquette de nouveau, c'est sa façon d'accuser réception. « Stacy Summers, » dis-je. Un gémissement en guise de réponse. Confirmation? Dénégation? Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un mince rayon de lumière? La dernière chose dont tu te souviennes? Elle ne répond pas. Je me creuse la cervelle pour trouver une meilleure approche. De quoi est-ce que je me souvenais au début? Ou plus exactement, qu'est-ce que je m'autorisais à savoir encore? Parce qu'on n'oublie pas d'un claquement de doigts toute sa vie, son identité, les gens qui nous aiment. Mais on met ces images dans une boîte, on les enferme. Parce que penser à ces choses-là, les avoir connues, est trop douloureux. Ces souvenirs font de vous un être humain et ça ne cadre pas avec votre nouveau rôle d'objet inanimé. Et ce n'est pas parce que la police débarque un jour comme une bande de cafards en carapace noire, l'arme au poing et des ordres à la bouche que ça ouvre les portes de la mémoire. Je les avais plutôt fermées à double tour, aussi désorientée par la liberté que je l'avais été par la vie dans une caisse en forme de cercueil. J'ai retrouvé la fille. J'ai littéralement buté sur elle pendant que je cherchais des ressources. Elle est recroquevillée dans un coin et je me suis pris les pieds dans les siens. Le contact l'a fait tressaillir. Je la sens qui recule, puis, comme elle n'a nulle part où aller, se faire plus petite. Ça me touche. Encore une fois, sa réaction ne m'est que trop familière. Je l'ai moi-même essayé bien des fois, mais ça n'a jamais marché. Au bout du compte, Jacob obtenait toujours ce qu'il voulait. Jusqu'à ses tout derniers instants, sa cervelle et son sang dans mes cheveux. Je m'agenouille. Je parle d'une voix douce. Moi, je rêvais de renard, racontai-je tout bas à la fille dans le noir. Je rêvais que je courais avec eux dans la forêt, que j'étais sauvage et en liberté. Et même si je finissais toujours par me réveiller, c'était bon de rêver. Elle ne répond pas. Ce n'est pas grave, tu sais. Les victimes font ce qu'elles ont à faire pour survivre. C'est Samuel qui me l'a expliqué. Quand on sortira d'ici, je te le présenterai, il devrait te plaire. Et comme elle ne répond toujours pas, tu feras des cauchemars quand ce sera fini. C'est drôle. On s'en sort, mais ça ne nous quitte jamais vraiment. On ne se rend pas compte à quel point c'est confortable de traverser la vie en se disant que jamais une chose pareille ne nous arrivera. Jusqu'au jour où cette certitude n'existe plus. À ce moment-là, à chaque reportage télé, à chaque article qu'on lit dans le journal, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça pourrait être soi. Je me suis documentée. Ça a été ma façon de réagir. J'ai appris à me défendre pour que plus jamais un gros porc en sueur ne puisse m'enlever sur une plage. J'ai appris à crocheter les serrures pour ne plus jamais être enchaînée. Je me masse les poignets, souris d'un air penaud dans le noir. Ça, au moins ça m'a servi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que la peur ne disparaît jamais réellement, mais qu'il y a des solutions. On peut se reconstruire, redevenir une personne. Regarde Elizabeth Smart, JC Dugar. Elles ont réussi. Mais pas moi. Je ne le dis pas. Je ne veux pas la démoraliser. Et mes échecs ne seront pas nécessairement les siens. Mon objectif, le but que je me suis donné dans la vie, n'est certainement pas de ceux qui produisent des dénouements de contes de fées. Je ne l'ai formulé à voix haute qu'une seule fois, il y a 5 ans. Je me suis penchée vers Jacob pour lui susurrer ma promesse à l'oreille. Je lui ai dit exactement ce que j'allais faire un jour, juste avant de lui coller le canon du pistolet sur le haut du crâne et de tirer. Son sang et sa cervelle dans mes cheveux. Tous mes rêves ne sont pas des cauchemars. Devon Golding est mort. Je prends une dernière fois la température. Je le sais, c'est moi qui l'ai tué. La fille répond enfin. Vous ne comprenez pas. J'essaye pourtant. Vous n'auriez pas dû lui faire de mal. J'étais obligée. C'était vendredi soir. Maintenant, ça va être pire. Qu'est-ce qui va être pire? Ce qui va nous arriver, répond-elle tout bas. Ça va être 100 fois pire. Je la laisse dans un coin. J'en ai ma claque des prédictions sinistres. Ce que je veux, c'est m'évader. Je retourne au matelas et retrouve le ressort que j'avais tordu pour crocheter les serrures des menottes. Dans ma tête, pour rétracter le loquet, j'imaginais un objet plat et tout en longueur. Mais je change mon fusil d'épaule. Peut-être qu'un ressort de matelas pourrait faire l'affaire. C'est plus rigide que du pain. Et si je recourbe l'extrémité pour lui donner la forme d'une cuillère, ou d'un de ces instruments dont on se sert pour tremper les œufs durs dans des tasses pleines de colorants à la veille de Pâques. Je n'ai rien de mieux à essayer. Je me débats une fois de plus avec le matelas. Je retire à main nue des tonnes de mousse et de rembourrage. Et de nouveau, il y a cette odeur de moisie, végétale. Je n'arrête pas d'éternuer, mais je m'accroche. Les ressorts sont reliés les uns aux autres. Dans le noir, je ne vois pas de quelle manière. Alors je suis obligée de tirer, pousser, tourner, tordre, avec des doigts déjà en charpie et sanguinolents. Convertir l'extrémité d'un ressort en clé de menottes était une opération beaucoup plus simple. Celle qui consiste à prélever un ressort entier se révèle pratiquement impossible. Là encore, mon royaume pour un rayon de lumière. Si seulement je pouvais voir ce que je fabrique. Mes doigts meurtris me semblent lourds, engourdis. Je suis fatiguée, fatiguée à en mourir. J'ai juste envie de m'allonger pour dormir. Mes paupières se ferment toutes seules et je dois lutter pour les garder ouvertes. Le stress me rattrape. J'ai de nouveau faim. Mais comme j'ai perdu la notion du temps, j'ignore totalement combien d'heures se sont écoulées depuis la dernière fois que j'ai mangé. La faim, la soif. Il y a de l'eau quelque part. Je devrais faire une sieste. Mais il faut encore que j'arrache ce fichu ressort. Mes paupières se ferment toutes seules. Des doigts agrippent mon épaule, comme des serres. Je me réveille en sursaut, me tortille furieusement, donne un coup de coude en arrière. Mais la fille, qui a fini par se secouer, se montre étonnamment forte. « Le matelas, » dit-elle. « Il faut vous éloigner du matelas. Éloignez-vous. » J'essaye de me dégager, mais mes gestes sont léthargiques. Puis, aussi brusquement qu'elle m'avait agrippée, elle me lâche. Je bascule en arrière comme un vilain scarabée, les pattes en l'air. Je dois cligner des yeux et me concentrer pour me redresser. Et même comme ça, je me sens groggy et j'ai encore envie de dormir. « C'est dans le matelas, » dit-elle. « Qu'est-ce qu'il y a dans le matelas ?» marmonnais-je. « Je ne sais pas, mais le matelas, vous allez vous endormir. Il fait dormir. » Le matelas contient une drogue. Il a été contaminé ou on y a ajouté quelque chose. Voilà ce qu'elle essaye de me dire. J'avais raison dès le début. La chambre était piégée. Mais pas avec du somnifère en poudre dilué dans l'eau de la bouteille, ni avec un gaz soporifique qui serait diffusé par la ventilation. C'est le matelas. Il nous faut un ressort, lui dis-je. J'en ai sorti un. Il doit être près du haut du matelas. Il nous le faut. La fille ne répond pas. Elle s'éloigne d'un pas traînant. Sa côte, évidemment. Elle est toujours blessée et marcher doit être douloureux. Mais elle ne se plaint pas. Retourne au matelas. Tâtonne pour trouver le ressort. Et puis elle revient. Je sens le fil de fer contre mon bras. « Je ne comprends pas qui vous êtes, » dit-elle. « Une fille comme toi, sauf qu'à une époque j'ai échappé aux ténèbres. « Vous pouvez nous faire sortir d'ici ?»« Oui. »« Nous emmener loin, très loin. Je ne veux plus jamais revenir. »« Tu es une survivante, » dis-je autant pour moi que pour elle. « Tu peux tout faire. »« Je veux rentrer chez moi. »« Dis-moi ton nom. Tu veux sortir d'ici, alors il faut te rappeler qui tu es réellement. » Il lui faut un moment. Je comprends ça. Je sais comment ça marche. Je suis passée par là. C'est une chose de survivre. C'en est une autre, beaucoup plus difficile, de recommencer à vivre pour de bon. « Je m'appelle Stacy Summers, » murmure-t-elle. « Et je voudrais juste revoir mes parents. » Sans commentaire, j'ai la gorge nouée. Il y a trop de choses que j'aurais envie de dire et aucune ne serait à la hauteur. Alors je prends le ressort du matelas. Je le triture avec mes pauvres doigts en sang. Je fais une boucle. Je le replie sur lui-même pour lui donner une forme de cuillère, le rigidifier. Ensuite, je retrouve la porte. Il me faut quelques instants pour retirer les éclats de bois. Et quand la rainure est dégagée, la partie commence. Moi, un ressort de matelas bricolé et les rêves les plus fous de deux jeunes filles. J'enfonce. Je remue, je pousse, je secoue, inlassablement. Et enfin, je l'entends, presque imperceptible. Le déclic, tout petit, très léger, du peine qui se retire de la gâche. Je donne une poussée, très doucement, presque timidement. La porte pivote, s'ouvre en grand. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend.